culture. La mixte culture.
Les repères sont tout éclatés, tu sais. Égaré sur tous les aspects purés. On n'était pas trop préparé du fait que le monde allait s'éloigner du vrai. On m'a dit de sortir de la caverne, frère, pour voir la vérité, la lumière claire. Le soleil est has-been, c'est plus le critère, remplacé par néon publicitaire. Aujourd'hui n'est pas un bon plan, faut dire. Capitalistes font pas semblant de rire. Faut courir vite, courir longtemps, horrible. Prendre des risques sans prendre de temps aussi. Le profit nous a observés, c'est vrai. Le chemin peut pas proposer le respect. Posséder mais déposséder des clés. C'est quoi ce projet de société biaisée? C'est une impasse, c'est un trou noir donc. C'est un cul-de-sac qui mènera nulle part. Un piège caché dans un couloir sombre, un pays en face de son pouvoir. Un pouvoir qui porte pas le pays, non. Un pouvoir qui affiche mépris blanc. Un pouvoir froid qui balbutie tant. Un pouvoir froid qui tarde du figrant. La bienveillance elle n'est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme. Tourner en rond comme dans un tonneau vide. Prendre du recul ce n'est pas trop possible. Le regard froid, je ne suis qu'un prototype. Je me réchauffe grâce à mes gros sourcils. J'aime bien l'oseille mais c'est pas réciproque. Tu veux tout contrôler comme un cyborg. Tu veux écrire ta vie comme un sitcom. On connaît tous ton dernier épisode. Beaucoup de gens font rien parce qu'ils ont peur. Au lieu de faire pour toucher l'équilibre, j'aimerais transformer le malheur en fleur. Pour voir qui ferme le poing sur les épines. Tout ce qui est bon dans cette vie se fait descendre. Mais on ne fera pas du feu avec des cendres. Ils ont cassé humanité et gens. De l'Afrique à la cordillère des Andes. La bienveillance elle n'est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme. Quand je parle politique personne me tolère. Deviens agressif et personne n'arrête. Pourtant je suis pas un ouf, je suis en colère. Pourtant vous êtes des oufs de ne pas l'être. Ce monde nous vend le dépassement de soi. Pas pour le sport mais pour un poste en stage. Comme ça tu t'exploiteras toi-même par toi. Pas pour l'oseille mais pour pas être en marge. Ça se voit que vous avez pas eu les refs. Le salut viendra pas du MEDEF. Les actionnaires se prennent pour des elfes. Encouragés parce que l'État les aide. La bienveillance elle est pas sur la liste. Y'a aucune chance de faire pousser la vie. On est mangé par du capitaliste. Alors on meurt sur du capitalisme.
La radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Là, en tant que syndicaliste, la première chose à faire demain, en retournant au boulot, c'est de se syndiquer, de militer et c'est de se laisser des espaces de réflexion et de pouvoir établir des revendications. Et puis plus on sera nombreux, moins ils pourront nous faire plier sous la répression.
Se rassembler, se syndiquer, être ensemble, bah, c'est légal, c'est légitime et c'est juste. En fait, c'est ça qu'il faut faire.
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Citoyennes et citoyens forment l'immense majorité du pays face à une poignée d'ultra-riches terrorisés qui, pour conserver leurs privilèges, instrumentalisent une police payée par les impôts de tous. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com. Bienvenue à vous pour cette émission autour du 1er mai, fête des travailleuses et des travailleurs, avec aujourd'hui un retour sur une table ronde sur la répression policière et judiciaire des collectifs écologistes et des syndicats de lutte. Événement organisé par Bassine Non Merci, c'était le 3 décembre 2025, à l'occasion de la convocation au tribunal de Poitiers de deux militants syndicaux de la CGT et de Solidaires et de deux militants des collectifs Bassine Non Merci et des soulèvements de la terre, procès dans le cadre de la lutte anti-mégabassine dont on vous a déjà beaucoup parlé dans ces reportages à réécouter donc sur polémiquesetlavoixoff.com. Alors désolé par avance pour la piètre qualité sonore de cette restitution de table ronde enregistrée depuis le public, mais ce qui s'est dit ce jour-là est extrêmement important et mérite que vous tendiez un peu l'oreille pendant une heure. Vous savez que le moment est grave, la bourgeoisie est aux abois et recourt de plus en plus à la répression policière pour se maintenir au pouvoir. Et comme elle l'a déjà fait dans les années 30, l'oligarchie n'hésite plus à recourir à la solution fasciste, comme en attestent les scores du Front National qui ne rassemble rien d'autre que frustration, peurs et colère. Pour parler de la répression contre syndicats de lutte et collectifs écolos, Bassine Non Merci a composé ce plateau avec Myriam Lebkiri, secrétaire confédérale CGT, Julia Ferrua, secrétaire confédérale solidaire, Nicolas Fortin, de la Confédération Paysanne, Benjamin et Maxime, deux comédiens de la compagnie Arlette Moreau, et c'est Adeline de Bassine Non Merci qui anime le débat.
Ma première question, ça va être de demander à chaque intervenant de présenter sa structure. Pourquoi sa structure, son syndicat, sa compagnie, elle dérange l'État ?
Myriam, secrétaire confédérale CGT.
Pourquoi on est réprimé par l'État ? Parce qu'on est un contre-pouvoir. Ça fait 130 ans que la CGT elle existe cette année. Ça fait 130 ans. C'est un contre-pouvoir aussi bien politique qu'un contre-pouvoir dans les entreprises et dans les administrations, puisque on structure et on organise les salariés. À cet effet, nous faisons peur au gouvernement, nous faisons peur au patronat, puisque nous sommes le porte-voix du monde du travail et dans cette lutte des classes infernales, nous sommes un des contre-pouvoirs avec d'autres organisations syndicales et milieux associatifs qui permettent de se saisir et de réfléchir à d'autres projets de société.
Julia, secrétaire confédérale solidaire.
Solidaire, bah du coup, pareil, hein, nous on est un syndicat de travailleurs et de travailleuses, et d'étudiantes et de retraités. Pourquoi est-ce qu'on dérange ? Bah parce qu'effectivement, hein, comme la CGT, on est un contre-pouvoir. On est aussi un syndicat de transformation sociale, parce que nous, ce qu'on aimerait rappeler à Solidaire, c'est que les luttes sociales et les luttes écologiques, aujourd'hui, elles doivent être liées. On le rappelle aussi, hein, il ne peut pas y avoir d'emploi sur une planète morte. Partout où il y a des luttes écologiques, vous allez trouver des syndicalistes qui vont lutter à côté de toutes ces luttes. On dérange aussi parce qu'on le dit clairement, on est un syndicat anticapitaliste, on combat les lobbies financiers, les multinationales. Ça aussi, ça dérange le gouvernement en place. On est un syndicat qui défend le droit du travail aussi avant tout. Et ça dérange aussi le patronat de défendre les travailleurs et les travailleuses.
Nicolas, Confédération Paysanne.
La Confédération Paysanne, donc c'est d'abord avant tout un syndicat de défense des paysans et des travailleurs. Donc nous, on est des petits patrons. La Confédération Paysanne, elle dérange dans le milieu agricole parce que, certes, on est un syndicat dit minoritaire, on représente 20% des paysans quand même en France. Elle dérange parce qu'elle se bat, je dirais, sur un projet d'agriculture assez global. Par rapport à l'État, on est toujours un peu bancal, parce qu'à la fois on essaie de jouer notre rôle institutionnel de syndicat, de relation avec le gouvernement, mais actuellement c'est très très compliqué. Et puis on essaye souvent d'être là où on ne nous attend pas, dans des actions de désobéissance, ce qui est un peu la marque de la Conf depuis longtemps. Voilà, on n'hésite pas à démonter des pompes pour démontrer que des bassines, ça ne se remplit pas avec de l'eau de pluie.
Un comédien de la compagnie Arlette Moreau.
La compagnie Arlette Moreau, on est une compagnie de spectacles et de performances de rue depuis une dizaine d'années basée à Poitiers. Pourquoi on dérange le gouvernement? En fait, nous, on se pose la question un peu autrement, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement nous empêche de faire notre travail? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller dans la rue, faire des trucs, ou faire exposer notre sensibilité, montrer des débats qui méritent d'être existés? Et donc, on imagine que c'est parce qu'on fait exister un contre-pouvoir et que les endroits qui sont libres de s'exprimer sont de plus en plus réduits. Donc, c'est probablement pour ça qu'on dérange le gouvernement, entre autres.
On a parlé beaucoup de violences policières ces derniers temps, et justement avec tous les rapports et l'enquête de Mediapart et Libération, et les scandales. Mais on voit qu'il y a aussi une autre répression, beaucoup plus pernicieuse, qui passe par différentes techniques, différents moyens, justement pour empêcher les syndicats, les collectifs, les associations, les militants, justement d'agir. On l'a vu aujourd'hui, l'arrêté, il avait double fonction, nous interdire la manifestation, et vous faire peur à vous, pour que vous pensiez que, comme c'est interdit, il va y avoir de la violence, donc il était mieux de ne pas venir. Alors ça n'a pas marché, parce que justement la com a été plus forte, que l'arrêté a été suspendu, et que vous êtes tous là. Mais c'est plein de petits moyens comme ça qu'on voit que l'État met en place pour aller sur la répression. Et je vais commencer par les camarades Benjamin et Maxime, pour nous parler, vous, en tant que compagnie, justement, quelle est la répression que l'État met en place? Quels sont les actes qu'ils font pour vous empêcher, justement, d'avoir une liberté de parole et d'action?
Alors nous, la compagnie, on a fait une demande de subvention pour faire une tournée d'un spectacle, et en fait on a eu un refus de subvention avec un motif qui était qu'on avait des activités contraires au contrat d'engagement républicain. Et donc, petite explication du contrat d'engagement républicain pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce bijou. Ce CER, il est entré en vigueur avec la loi séparatisme, qui a aussi un autre nom, la loi confortant le respect des principes de la République, en 2021. C'est dans cette même loi qu'est arrivé aussi le principe de pouvoir dissoudre les associations, enfin plus facilement dissoudre les structures et les associations. Et en fait, ce CER, c'est toutes les structures associatives, si elles veulent de l'argent public ou même un lieu, un espace mis à disposition, du matériel, elles doivent signer ce contrat. C'est une case à cocher, concrètement, quand on dépose un dossier de subvention. Et ça veut dire qu'on respecte ça, et c'est-à-dire qu'il y a 7 points... C'est des choses qui servent à rien parce que c'est déjà dans la loi de toute façon, et soi-disant ce contrat serait là pour empêcher qu'une structure fasse du mal à l'État, au peuple, en ayant des subventions publiques. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire jusque-là, les administrations, enfin les préfectures souvent, ou les municipalités, des choses comme ça, c'est de dire non, cette association ne respecte pas le CER, donc pour ce motif-là, sans devoir se justifier plus, on lui supprime sa subvention, sa salle, son accès à une manifestation, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'est parti en justice quand même. Ça prouve que leur outil, il n'est pas super efficace dans ce sens-là. Après, l'idée quand même d'empêcher les associations est toujours là, de couper les moyens ou de faire des choses comme ça, c'est toujours là. Mais ce CER, c'est un outil qui sert à ça, quoi. Concrètement, c'est comment faire pour couper les moyens d'une subvention. C'est pas la supprimer comme une dissolution, mais c'est dès qu'on coupe les moyens d'une association, ça va être plus dur de faire son activité, quoi, dans l'association. Voilà.
Côté syndicat, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'entraves?
Alors côté syndicat, le contrat d'engagement républicain, normalement, on n'y est pas soumis, mais on s'aperçoit que là où il y a des mairies d'extrême droite, ils essaient de faire signer ce fameux contrat d'engagement républicain. Donc c'est des cas qu'on a eus, donc on a attaqué au tribunal et à chaque fois on a gagné. L'une des grosses tactiques aussi du gouvernement, ce sont les attaques au tribunal qui se multiplient. C'est pas très clair, on sait pas trop pourquoi on est convoqué, et en fait souvent, en fait ils perdent, mais en tout cas nous, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Ça nous fait perdre du temps, des moyens, ça nous fait perdre du temps sur la lutte. C'est aussi des amendes qu'on voit se multiplier pour du collage d'affiches, avec des amendes, alors bon, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, je crois que c'était à Marseille, ils avaient 50 000 euros d'amende de collage d'affiches pour avoir collé 10 affiches. Ça faisait le collage de l'affiche hors de prix, quoi. Limite, alors il méritait sa place dans un musée. Puis il y a aussi ce qu'on voit aussi se multiplier, hein, c'est des interpellations de militants à leur domicile plutôt que des convocations à la gendarmerie. Ça, c'est aussi ce qu'on peut voir se multiplier. Et à domicile, devant la famille, à 7h du mat. Voilà, alors qu'une simple convocation aurait suffi. Voilà, et puis aussi ce qu'on a pu voir dans les luttes, notamment écologiques, c'est des balises GPS mises sur des voitures et des enregistrements de téléphones portables, donc sur écoute téléphonique. Donc ça aussi, ça se voit, ça se multiplie un peu partout dans les luttes, notamment écologiques. Voilà.
Quand on est syndicaliste et quand on est militant ou militante, on peut être attaqué par des plaintes et au niveau de la justice, comme c'est le cas par exemple de David Baudin pour la CGT aujourd'hui. On a un des secrétaires d'Union départementale des départements pour la CGT, qui est Laurent Intouziac, qui a été convoqué plus de 29 fois auprès des forces de police. On a énormément de répression, on a des secrétaires d'UD qui se font arrêter. Là, moi je viens du département du 95. Un camarade, le camarade Kamel Brahmi, qui est secrétaire du D du 93, il a été arrêté directement par la police parce qu'il était dans une mobilisation avec les profs pour avoir des ouvertures de classe, etc. Et ben, la police est allée à la touche avec lui et l'a arrêté dans la foulée. Il a été mis en garde à vue, etc. Donc on est attaqué à l'extérieur quand on est militant et militante, mais aussi on a attaqué à l'intérieur en tant que salarié, en tant que travailleuse et travailleur. Donc on a de plus en plus de militants et militantes qui ont des sanctions professionnelles, que ça peut aller jusqu'au licenciement. On en a eu énormément dans le mouvement de 2023, notamment les énergéticiens qui ont fait des opérations au Robin des Bois ou de coupure de courant, qui ont été ensuite vraiment discriminés et réprimés en entreprise. Et puis il y a un autre levier gouvernemental, c'est celui de nous couper les vivres du fonctionnement. Par exemple, les maisons du peuple sont de plus en plus attaquées, les bourses du travail sont de plus en plus attaquées. On a des remontées de fermetures tous les ans, voire plusieurs fois par an. Et c'est vrai que d'ailleurs, des fois, c'est la menace de signer le contrat républicain pour la mise à disposition des locaux. Ils ont toujours des idées nouvelles pour nous attaquer et pour nous empêcher de nous exprimer. Avec là, ce que tu disais sur les amendes, ça me fait penser que nous, la dernière fois, on s'est pris une amende de stationnement. Parce qu'on avait stationné le Kangoo de Manif là où il devait être, hein, mais on s'est pris des amendes de stationnement, des trucs comme ça. Ils essayent par tous les moyens de brider notre parole et notre fonctionnement.
À Albi, ils se sont pris une amende lors d'une manifestation pour avoir grillé un feu rouge.
Oui.
Nous, à la Combe, je trouve, on a l'impression que la répression, on la vit à deux niveaux. Donc là, actuellement, avec le gouvernement qu'on a, en fait, la ministre, elle suit la feuille de route de la FNSEA. Donc nous, on essaie de faire le travail institutionnel, mais on a vraiment le sentiment d'être méprisé et pas écouté. Donc c'est vrai que ce n'est pas une répression. Enfin, c'est quand même assez dur à vivre. L'exemple de la lutte du plomb, par exemple, est quand même très révélatrice. Hein. Voilà, donc c'est un projet de la FNSEA, porté par quelqu'un de la FNSEA, et le gouvernement prend pour lui cette loi. Et on voit bien que cette loi, elle répond en rien aux attentes de la société, quand on a pu voir la pétition qui a pu en suivre. Il n'empêche qu'elle va s'appliquer en bonne part, hein, et elle s'applique sur les questions d'eau aujourd'hui, et ça c'est quand même assez grave. Et après la répression, on le vit forcément dans toutes les actions qu'on porte, hein. Donc on passe au tribunal aussi, bien souvent malheureusement, et ça c'est quand même assez compliqué. Par exemple sur Sainte-Soline, c'était pas longtemps avant la grosse manif de Sainte-Soline, la FNSEA avait mis 600 tracteurs dans les rues de Paris, apparemment ça posait problème à personne, et nous on emmenait 50 tracteurs à Sainte-Soline et on a eu interdiction de circuler avec nos tracteurs. Il y a un niveau de répression qui n'est pas du tout le même. Pour finir, je peux dire, on a un exemple dans la Vienne. Pendant les colères agricoles, on s'est mobilisé sur une action plutôt symbolique de caddie gratuit dans un supermarché. On n'a pas vraiment fait des grosses dégradations. Même le gérant du supermarché a dit qu'il n'y aurait pas de souci. Et là, on se retrouve avec un paysan qui est convoqué en gendarmerie mercredi prochain pour incitation au vol. Donc là encore, on a vraiment le sentiment qu'on n'a pas du tout le même niveau de répression qu'il peut y avoir sur les autres organisations syndicales. On a pu voir à Poitiers, par exemple, les motards qui accompagnaient les tracteurs pour aller baigner des remorques des déchets devant la permanence de la députée de Poitiers. Enfin, franchement, là, on a vraiment le sentiment qu'on n'est pas traité au même niveau, en tout cas.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de toutes les répressions qu'ils font en individuel sur les personnes qui séparent la mobilisation, le syndicat, mais qui ciblent des personnes directement du syndicat? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner?
Bah, nous, là, on a un camarade qui s'appelle Djelloul, militant à Sud Collectivité Territoriale dans le 62 à Hénin-Beaumont. Ce que veut le maire, donc Hénin-Beaumont, maire d'extrême droite, c'est le radier de la fonction publique pour être sorti de son devoir de réserve en tant que fonctionnaire. Parce qu'il a osé dire dans un documentaire que le maire de Hénin-Beaumont était raciste. Alors, il ne l'attaque pas pour diffamation, mais il l'attaque pour être sorti de son devoir de neutralité. On a d'autres camarades sur Amazon, notamment dans le Nord, aussi très attaqués. Il faut savoir que Le droit du travail à Amazon est très compliqué et les camarades de Sud Commerce Amazon, ça a été l'un des premiers syndicats à devenir un peu massif au sein de Amazon. Du coup, on a deux camarades qui aujourd'hui subissent vachement de répression et risquent d'être licenciés. Donc là, pareil, hein, on les soutient. Donc ça, c'est des cas un peu individuels. Et puis, il y avait aussi les cas des cadres de MEL dans l'éducation qui, lors des mobilisations contre la réforme du bac, avaient osé critiquer le ministre et ce qui se passait à ce niveau-là, au niveau de la réforme du bac. Et ont subi des mutations forcées.
Myriam, de la CGT.
Déjà, on a cinq dirigeants et dirigeantes du bureau confédéral qui ont été inquiétés, et c'est sur des valeurs fondamentales fortes. Par exemple, Gérard Rey, qui s'occupe notamment des travailleurs migrants, il y a une plainte contre lui parce qu'il a dit qu'il y avait un problème, il est plainte en diffamation pour l'entreprise Sépure. Il y a Sébastien Ménesplier de la Fédération de l'énergie qui a été inquiété pour les coupures de courant qui ont été mises en place dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. On a eu hier Jean-Paul Delescot qui est de l'UD du Nord, mis en examen et qui a été condamné à de la prison avec sursis pour apologie du terrorisme parce qu'ils avaient appelé à la mobilisation et écrit un tract il y a 2 ans en soutien à la Palestine. Donc ça, c'est extrêmement grave. On a eu beaucoup de camarades et notamment des territoriaux qui ont été inquiétés suite à la campagne pour le programme du Nouveau Front Populaire. Lorsque la CGT et d'autres organisations, lorsqu'on s'est positionné pour faire barrage contre l'extrême droite, on a des militants, militantes, des mairies notamment, qui nous ont alertés. Est-ce qu'on peut distribuer des tracts? Est-ce qu'on peut? Donc nous, on a dit contre l'extrême droite, on n'a jamais les genoux qui tremblent, donc on va jusqu'au bout. Et ils l'ont fait avec beaucoup de courage, puisque pour certains et certaines, ils ont eu des sanctions pouvant aller jusqu'à plusieurs jours de mise à pied. En fait, on est attaqué dans nos valeurs quand ils nous répriment. Et puis là, on a appris très très récemment, c'est peut-être l'apothéose de la répression quand même, c'est le top niveau, que Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est également mise en examen pour des propos qu'elle a tenus il y a quelques mois concernant le chantage à l'évasion et à la délocalisation que font les multinationales lorsqu'il s'agit de leur faire payer leur juste part d'impôt. Et elle a dit très justement sur RTL que c'est les rats qui quittent le navire. Donc elle est mise en examen pour ses propos et la radio est également poursuivie. Ce qui fait que ça entrave aussi. Par exemple, moi j'ai dans mon département une camarade pareil qui on essaie de voir pour quel est le statut de lanceuse d'alerte notamment. C'est aussi le journal L'Humanité qui a relayé sa parole qui est aussi poursuivie. Donc c'est une technique pour que maintenant les radios, les journaux aient peur aussi de nous laisser la parole et de qu'on soit porte-voix du monde du travail. Grosso modo, on est attaqué de toutes parts sur toutes les valeurs qu'on porte.
Donc là, on a vu qu'il y a plusieurs formes de répression, on en a parlé, donc il y a toute la question des arrêtés en amont. Il y a la question des financements. Les financements, en fait, c'est le nerf de la guerre, parce que même si beaucoup d'associations sont anticapitalistes, en réalité, sans l'argent, elles ne peuvent pas financer des salaires à des conditions correctes. Petit plaidoyer aussi, comme on a des syndicats, c'est pas parce qu'on est militant qu'on doit avoir des conditions exécrables de travail. Et sans financement, eh ben, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, on a fait une petite analyse dans un des syndicats de Solidaires d'Assaut, qui est le syndicat des travailleurs associatifs. On a plus de 30% des associations qui sont touchées par la baisse de financement et qui vont mettre en place des plans sociaux. Et donc ça, c'est aussi une manière de réprimer, s'assurer que les associations militantes, elles puissent plus ouvrir. S'il n'y a plus personne et qu'il n'y a plus le financement pour financer, accueillir les bénévoles, il ne se passe rien. Et puis on l'a vu, là vous l'avez très bien décrit, c'est la politique de l'État de diviser. Comment? En divisant, en individualisant. Voyez bien, bah, sinon merci. À Sainte-Soline, on était plusieurs milliers, et pourtant, là aujourd'hui, il n'y a que 4 camarades qui sont devant le tribunal. En individualisant, en prenant des personnes seules et en les mettant face à la justice, parce qu'en effet, quand on a une condamnation, on est tout seul à l'avoir. Et bien ça, ça fait peur. Et ça, ça permet aussi de faire toute une campagne de communication qui fait peur aux gens et qui s'engage moins. Et c'est là où le collectif est vraiment important et qu'il faut remettre du collectif. Et ma question, ça va être justement comment, à travers la compagnie, à travers les syndicats, vous arrivez à déjouer ce côté d'individualiser et d'emmener au tribunal des personnes. Qu'est-ce que vous mettez en place?
Maxime et Benjamin de la compagnie Arlette Moreau.
Nous, on a de la chance et à la fois pas de chance, dans le sens où jusqu'à maintenant, l'ensemble des manifestations et des représentations qu'on a faites dans l'espace public, elles n'ont été que arrêtées par la police. Et on nous a simplement relevé nos identités. Qu'est-ce qui va faire qu'on y va ou on décide de ne pas y aller individuellement, c'est effectivement la peur que peut faire exister le fait de se retrouver en garde à vue ou convoqué devant le tribunal, ce genre de choses. Et ça fait partie, nous, des questions qu'on se pose à chaque fois qu'on va aller dans l'espace public. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Et donc on s'est formé à notamment à des outils de désobéissance civile sur comment faire pour réagir lorsqu'il y a des représentants de l'ordre. Ça peut être des représentants de l'ordre tels que la police, mais ça peut aussi être des représentants de l'ordre à partir du moment où on est dans des espaces privés, donc des centres commerciaux, ce genre de choses. On a fabriqué un protocole avec l'ensemble des intervenants savent comment réagir dans certaines circonstances, et on a ce qu'on appelle des contacts autorités. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas dans la performance artistique et qui sont simplement là pour regarder autour, savoir si il y a une intervention potentielle qui va apparaître et se présenter à la fois en garde-fou mais aussi en rétention pour faire que la performance continue d'exister, que ceux qui jouent continuent de jouer et continuent de pouvoir faire ce qu'ils savent faire, et donc du coup il y ait une forme de retenue, et ça permet aussi d'éviter qu'on se retrouve individuellement en garde à vue, puisque lorsque le débat n'existe plus, le contact autorité dit que la forme artistique s'arrête, et donc tout s'arrête. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas être poursuivi. Ça fait partie des outils pour lesquels on a été formé.
Plus notre recours face à la préfecture, parce qu'on était tout seul à ce moment-là quand on a eu le motif là, comme quoi on avait des activités contraires à la République. Et du coup, on a choisi d'aller en justice, mais pas tout seul, parce que nous, on est une compagnie de spectacle. Et en fait, on s'est tourné tout d'abord vers un syndicat, le SINAVI, qui nous a pas mal aidé. Et en fait, c'est ça qu'on a fait collectif, quoi. On est allé de rencontre en rencontre. On a eu des contacts avec Alternative à Poitiers, qui avait l'affaire, pareil, avec le CER, qui nous ont filé des contacts d'avocates. Et en fait, on a rencontré tout un réseau, justement, et là-dedans, il y a l'Observatoire des libertés associatives qui nous a vachement aidés et qui fait un gros boulot de recensement d'entraves aux libertés associatives, et puis aussi de mise en réseau et puis de table ronde et de choses comme ça. Et en fait, ça fait qu'aujourd'hui, notre cas déjà, il sert. Le coup de projecteur sur l'entrave et la mise en réseau, elle est bien effective, quoi. La semaine dernière, j'étais avec la Fédé des Arts de la Rue, ça les intéresse, et puis d'en parler, en fait, ça fait réseau. On recrée un groupe, quoi, là où ils veulent vraiment nous atomiser, et c'est vraiment par des attaques, par ci, par petit bout. Aujourd'hui, je me retrouve avec d'autres gens, d'autres compagnies, d'autres associations qui sont embêtés par quelque chose où ils se disent « Oh, mais je sais pas si c'est une entrave, je sais pas trop, mais en tout cas, je l'ai mal vécu ». Et du coup, avec notre expérience, on raconte, et puis « Ah ouais, t'as raison, donc je pourrais... » Et voilà, on recrée du lien, on recrée du réseau assez directement, quoi.
Myriam, de la CGT.
Déjà, ce qu'on a fait, qu'on redistribue le plus souvent en manifestation, c'est un guide du manifestant, de la manifestante. Comme ça, on sait comment se comporter en manifestation, comment se protéger aussi des forces de l'ordre. On a, étant donné la massification des répressions qu'on a constatées, on a mis en place un dispositif d'urgence pour des réponses immédiates lorsqu'il y a des convocations.